18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, votre grand journal du soir sur Europe 1. 2 heures d'information, d'analyse, de débat. Dans un instant, l'information c'est avec vous, votre journal Sébastien Krebs. Bonsoir et
bonsoir,
bienvenue.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une ce soir, les agriculteurs en colère, ils ont bloqué des axes routiers dans plusieurs régions. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être les mal-aimés des Français. France, veux-tu encore de tes paysans? Pouvait-on lire sur les banderoles? Une profession en détresse, je recevrai à 18h20 dans ce studio Jérémy Dutour, des jeunes agriculteurs. On va également parler société de vigilance voulue ce matin lors de l'hommage aux 4 fonctionnaires de police assassinés jeudi dernier en préfecture de police de Paris. Une société de vigilance pour venir à bout de l'hydre islamiste. Je cite là le président de la République, Emmanuel Macron. Les explications, c'est dans le journal et le débat, c'est à 18h30 avec vous et bien sûr les grandes voix dans ce studio. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La vigilance, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, les relâchements, les déviations.
Emmanuel Macron en appelle à la mobilisation de tous contre le terrorisme. Les institutions seules ne suffiront pas, reconnaît-il la société de la vigilance au cœur de son discours aujourd'hui.
Un discours fort, offensif, prononcé lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de la préfecture de police de Paris. Première réaction dans une minute et nous en débattrons donc avec les grandes voix à 18h30.
Le gouvernement toujours pris pour cible pour les failles qui entourent cette affaire. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se défend ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée.
C'est en ce moment exactement. Et dans l'actualité, les agriculteurs également mobilisés un peu partout à travers la France. Aujourd'hui, ils s'estiment pointés du doigt dans le débat, entre autres, sur les pesticides. On en parle avec
On était des sauveurs, on a sauvé la France après la guerre, on a nourri tout le monde et puis maintenant on pollue tout et ça m'énerve.
Des autoroutes bloquées aujourd'hui dans plusieurs régions. Mobilisation aussi à Rouen, habitants, associations dans la rue pour exiger la vérité sur l'incendie de Lubrizol. Ce sera notre coup de fil.
Et puis Sébastien, si on gagnait 190 millions,
pourquoi pas ?
Confort ?
Ah mais j'y crois très très fort. Ce soir, c'est pour moi.
Je suis pas la personne qui va dire je vais acheter une maison ou... Ah si, peut-être.
Et pourquoi pas 190 millions, c'est la cagnotte maximale. Elle tombe forcément ce soir. J'espère que vous avez joué. Moi, si je gagne, je suis pas sûr de vous revoir demain, Nathalie.
J'ai encore le temps de jouer. Il faudra nous donner le mode d'emploi.
La Bourse de Paris décroche à nouveau ce soir. Net recul, moins 1,18% à 5456 points.
Et du côté de la météo, Anissa, qui avait vous joué, j'en suis sûre.
Ah, moi j'ai joué, fait plein de grilles, moi. Beaucoup de pluie encore demain, voilà, pour nous remonter le moral avec l'euro million. Beaucoup de pluie sur les trois quarts nord du pays.
Europe 1.
Commandant Damien Ernest. Capitaine Anthony Lancelot. Secrétaire administratif Brice Lemescam. Capitaine Aurélia Trifiro. Au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
4 cercueils recouverts des couleurs bleu, blanc, rouge ce matin dans la cour de la préfecture de police de Paris. Hommage national et solennel aux 4 victimes de l'attaque au couteau jeudi dernier. Les 4 fonctionnaires tués par l'un de leurs collègues ont été décorés à titre posthume en présence de nombreux élus et d'anciens présidents de la République. En présence aussi de la 5e victime blessée qui est sortie de l'hôpital.
Et c'est ce moment qu'Emmanuel Macron a choisi, Sébastien, pour prononcer un discours éminemment politique.
Oui, en plein débat sur les failles des services de renseignement, la difficulté à faire remonter les signalements, le président de la République a promis un combat sans relâche contre le terrorisme islamiste et surtout, il a appelé les Français à y participer, à faire bloc et donc à être vigilants.
Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, une séparation.
Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Une société de vigilance, dit le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Eh bien, derrière cette expression de société de vigilance, il y a l'idée pour le président que chaque citoyen est et doit être acteur de la sécurité de la société tout entière. En un mot, que chacun peut déceler des signaux, des attitudes qui interpellent dans les administrations, dans les écoles, dans les entreprises, comme en fait on le fait déjà un peu pour les bagages suspects dans les transports. L'entourage du président précise, il ne s'agit pas d'une société de la délation. Ils ont bien vu évidemment qu'il y avait un piège politique derrière tout ça. Dire telle suspicion, ça n'est pas condamner une personne, explique l'un de ses conseillers. En tout cas, je peux vous dire que tout à l'heure, j'étais à l'Assemblée nationale. Je m'y suis rendu un petit peu plus tôt dans la journée et cette expression, elle fait beaucoup réagir. Écoutez notamment le député insoumis Éric Coquerel.
Je crains de semer la division, la peur de l'autre, ce qui est exactement ce que cherchait Daesh. Je trouve que ça entraîne la méfiance en laissant penser que le problème est tellement énorme qu'en réalité... pour reprendre une expression, il s'agirait d'un hydre, c'est-à-dire d'un monstre de l'Antiquité, dont je rappelle que la caractéristique, c'est que quand vous l'attaquez, il double de volume. Donc tout ça est très mal choisi dans les mots, je trouve.
Alors sachez Nathalie tout de même que la notion de société de vigilance, elle n'est pas nouvelle pour Emmanuel Macron. J'en ai retrouvé des traces et une mention en octobre 2017 dans un discours devant d'ailleurs les forces de sécurité intérieure, puis dans un autre discours sur le plan banlieue, c'était en mai 2018, avec toujours cette même idée que les citoyens doivent être impliqués dans leur propre sécurité.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
On a entendu le ministre de l'Intérieur qui remettait les insignes de la Légion d'honneur, Christophe Castaner, en train de se défendre aujourd'hui encore à l'instant, il y a quelques instants, devant les députés.
Oui, où sont les failles ? Comment un agent de la préfecture de police qui avait montré des signes de radicalisation a pu commettre cette attaque contre ses collègues ? Et aussi, on le sait maintenant, copier un listing, un trombinoscope de policiers sur une clé USB. Le ministre de l'Intérieur a répondu ce matin à huis clos et sous secret défense à la délégation parlementaire au renseignement. Ce soir, il est auditionné publiquement, cette fois par la commission des lois. Et dès la semaine prochaine, une commission d'enquête parlementaire sera saisie du sujet.
Et le débat s'est invité également dans l'hémicycle. Le Premier ministre Édouard Philippe pris à partie, notamment par le député et les Républicains Éric Ciotti.
Des failles, des fautes ont été commises. Toute la vérité doit être faite et être dite. La Commission y travaillera. Des questions se posent. Le déni et la banalisation qu'a entretenu le ministre de l'Intérieur ne sont pas supportables et acceptables.
J'ai entendu votre demande de vérité. Je la partage également. Mais je voudrais vous dire quelque chose, monsieur le député. Je ne chercherai pas à désigner du doigt les responsabilités ailleurs. De la même façon, monsieur le député, je n'irai pas chercher la prétendue responsabilité de tel ou tel dans tel service. Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État. Tout.
Édouard Philippe face à Éric Ciotti, propos recueillis à l'Assemblée par Claudia Bertram.
On en reparle évidemment, ce dossier brûlant avec les grandes voix à 18h30. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Julie Gradiani, éditorialiste Alain Corrette, seront dans ce studio.
Il est 18h07 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Venons-en à la mobilisation des agriculteurs. Ils ont bloqué les routes un peu partout en France aujourd'hui.
Ils s'estiment dénigrés et dévalorisés, montrés du doigt dans les débats sur les zones sans pesticides notamment. Ils craignent aussi la concurrence étrangère. Mobilisation très vive dans l'Aisne, le Var, la Drôme, dans l'Est, dans le Bas-Rhin. Des centaines de tracteurs ont bloqué les autoroutes. En Auvergne, la 75 a été coupée. Opération Escargot aussi sur le périphérique à Toulouse. Écoutez ce céréalier de Haute-Garonne, lassé d'être considéré comme un pollueur.
Ça coupe des grands champs, ça coupe des parcelles, c'est un emmerdement pour les travailler la terre. Et il faut se mettre dans la tête que si tout le monde fait du bio, eh bien on crève de faim, tout simplement. Et puis c'est la goutte d'eau qui continue comme tous les ans, comme sans arrêt, il faut se battre. Parce que si on ne se bat pas, de toute façon, on est un métier maintenant qui ne représente plus rien. Chaque année, ils nous inventent quelque chose de supplémentaire. On met des désherbants très très peu au prix que ça coûte déjà. On le jette pas par plaisir. C'est nous les pollueurs. À un moment donné, on était les sauveurs. On a sauvé la France après la guerre. On a nourri tout le monde. Et puis maintenant, on pollue tout et ça m'énerve.
Un céréalier à Toulouse, au micro Europe 1 de Benjamin Péter.
Et restez avec nous parce que dans... quelques minutes, à 18h20 précisément, je recevrai dans ce studio Jérémy Dutour. Il est viticulteur et producteur de céréales dans le Gers, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Il nous dira évidemment quel est son quotidien, entre autres.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, les habitants de Rouen, Sébastien, attendent toujours des réponses. Ils sont dans la rue ce soir, ce sera notre coup de fil.
Et puis regardez bien vos comptes, les impôts sont en train de rembourser 6 millions de Français de leur taxe d'habitation.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À Rouen, l'enquête de terrain dans les ruines de l'usine Lubrizol a enfin pu commencer aujourd'hui pour rechercher les causes de l'incendie du 26 septembre.
Ouais, ça fait presque deux semaines, hein, mais jusqu'à présent, il restait encore des points chauds et les enquêteurs n'avaient pas pu procéder aux constatations. Il reste encore beaucoup d'interrogations et une manifestation a lieu en ce moment même à Rouen à l'appel de plusieurs organisations, associations et syndicats.
C'est notre coup de fil ce soir. Bonsoir Sébastien Duval.
Bonsoir.
Vous faites partie du collectif Lubrizol qui compte 25 000 membres sur Facebook. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui ?
Alors cette manifestation, elle a été appelée en fait pour faire pression auprès des politiques, auprès des responsables, de façon à bien leur faire ressentir que le public recherche la vérité. Il exige la vérité et la transparence qui nous ont été promis.
L'enquête, elle commence juste, hein, on le disait, les enquêteurs n'avaient pas encore pu accéder au site. Il manque encore énormément d'informations, mais est-ce qu'il ne faut pas un peu de patience ?
Alors de la patience, il en faut, mais pour l'instant, la population, elle vit au milieu de toutes ces odeurs, de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on ne sait pas, au quotidien, dans la rue. Alors la patience, c'est une chose, mais on apprend des choses tous les jours qui auraient pu nous être dit avant et qui ne l'ont pas été.
Vous avez déposé des plaintes à ce jour, elles se comptent par dizaines, plus même maintenant ?
Alors il y a beaucoup de plaintes qui s'organisent. Maintenant, il faut être conscient que les plaintes peuvent faire pression sur l'apparition de la vérité. Mais une plainte, elle peut se déposer pendant 3 ans dans cette problématique. Donc on a encore du temps. Dans l'immédiat, ce qu'on exige, c'est la vérité, la transparence pour la protection des populations.
Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quelles sont les questions que vous posez ce soir au gouvernement et aux autorités ?
Ben, au gouvernement, aux autorités, ce qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Clairement, on nous a promis la semaine dernière la transparence. Et de fait, on a appris 2 jours après que Lubrizol stockait chez son voisin Normandie Logistique 4000 tonnes de produits supplémentaires. Et on ne l'a pas appris par les autorités. Donc cette transparence, elle n'a pas été là. Donc qu'est-ce qu'on nous cache encore ? Est-ce qu'on nous cache encore des choses ? Et est-ce que les tests sont vraiment faits, les analyses ? Comme il faut.
Et on ne sait toujours pas, hein, quels sont les produits qui ont brûlé sur le site qui était le site voisin de Lubrizol à ce stade.
Et c'est bien le problème. Tant qu'on ne sait pas comment faire les analyses qui vont bien pour nous dire s'il y a effectivement danger ou non. On ne sait pas. Et c'est ça le problème.
Merci beaucoup Sébastien Duval d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous faites partie du collectif Lubrizol.
Et nous irons évidemment rejoindre notre reporter Hélène Terzian dans cette manifestation qui débute à Rouen tout à l'heure dans le journal de 19h. J'ajoute que la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a assuré aujourd'hui que la société Lubrizol devra, je cite, « indemniser tous ceux qui ont souffert des conséquences de l'incendie ».
Sébastien, le ton monte clairement sur le Brexit à Bruxelles.
Ouais, négociation au bord de la rupture ce soir, alors que l'horloge tourne à la sortie du Royaume-Uni. C'est dans 3 semaines. Angela Merkel estime qu'un accord est très improbable. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, accuse le Premier ministre britannique, Boris Johnson, de jouer avec l'avenir de l'Europe. Et puis d'un mot, le prix Nobel de physique a été remis aujourd'hui à un Canado-Américain pour ses recherches sur les origines de l'univers. Et à 2 Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, récompensés pour la découverte d'une exoplanète, la découverte la plus excitante de notre carrière, raconte-t-il.
Prenez 5 minutes, hein. Regardez vos comptes ce soir en rentrant à la maison, vous allez peut-être avoir une bonne surprise dans les prochains jours.
Oui, un virement des impôts, remboursement de trop perçus, c'est pas si fréquent.
C'est
bonsoir
ça.
Carole Ferry.
Bonsoir.
Ça concerne 6 millions de foyers et c'est la taxe d'habitation qui leur est restituée.
Oui, alors ça concerne qui ? D'abord les 80% de Français pour qui la taxe d'habitation est progressivement supprimée depuis l'an dernier, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu fiscal inférieur à 27 000 euros pour une personne seule, 55 000 euros pour un couple avec 2 enfants. Surtout ça concerne ceux qui sont mensualisés. En fait, quand vous êtes mensualisé, vous payez à l'avance votre taxe d'habitation. On vous étale le paiement sur 10 mois de l'année. Sauf que la réforme prévoit la suppression de 35% du montant cette année. Et cette suppression, eh bien, elle n'a pas été anticipée sur les mensualités. Beaucoup ont payé ces 35% au fil des mois. Et maintenant qu'on connaît le montant exact des taxes d'habitation, eh bien, les impôts remboursent le trop perçu. Alors bien sûr, il y aura le même phénomène l'an prochain. Et vous pouvez continuer à payer tous les mois le dernier tiers de la taxe d'habitation qui vous sera remboursé l'an prochain. Ou vous pouvez demander aux impôts dès le 14 octobre prochain de réduire vos mensualités. Attention toutefois, vous ne pouvez pas complètement les supprimer puisqu'elles incluent également la redevance audiovisuelle, 139 euros par an, un peu plus de 14 euros pendant 10 mois.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Et si les impôts ne vous remboursent pas, il vous reste toujours l'euro million. Alors, il y a quand même assez peu de chance, hein, je dois dire. Mais on peut continuer d'espérer. Ça peut rapporter, attention, ça peut rapporter beaucoup plus. Donc.
190 millions d'euros, c'est la cagnotte ce soir. C'est la cagnotte maximale. Ça ne peut pas monter au-delà. Et comme il y a déjà eu 3 tirages sans gagnant, eh bien la somme va forcément tomber ce soir. Elle sera partagée si personne ne trouve tous les bons numéros. Alors, forcément, il y a un gros coup à jouer et ça se bouscule au comptoir.
Ah mais j'y crois très très fort, ce soir c'est pour moi.
Je suis pas la personne qui va dire je vais acheter une maison ou... Ah si, peut-être. Avec piscine. Sur Paris. Je l'ai vu. C'est une maison en verre. Je suis tombée folle amoureuse de cette maison. J'ai dit ça vaut le coup.
Voilà. Si je gagne, je serai vacancier.
Là, j'ai joué deux grilles. Donc voilà, je me multiplie pour avoir les chances de gagner. 190 millions, ben... Ça se refuse pas. Je serai pas là. Je serai en train de me bronzer à Malaga ou ailleurs. Si ça vient pas, ben c'est pas grave. La semaine prochaine, on rejouera.
Bah voilà, il faut rester optimiste.
Les espoirs des joueurs avec Caroline Baudry à Paris. Voilà, bonne chance à tous. Vous avez jusqu'à 20h pour jouer. Elle, c'est sur le terrain qu'elles doivent gagner. C'est le retour des Bleus. Les Bleus avec un E, l'équipe de France féminine de foot qui dispute son premier match pour les qualifications de l'Euro 2021. Elles sont en déplacement au Kazakhstan. Le coup d'envoi a été donné à 17h et elles mènent les Françaises 1-0. But à la 56e minute de Valérie Gauvin. On joue la seconde période en ce moment même.
Une dernière information, Sébastien, elle concerne Johnny Hallyday, le boss.
Ah oui, début décembre, ça fera 2 ans que le chanteur est décédé. Le nom de Johnny va revenir à cette occasion en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. Un concert d'hommage aura lieu le 1er décembre. Information d'Angèle Châtelier pour Europe 1. Concert vidéo, hein, ce sera uniquement des images d'archives des concerts et des interviews qui seront projetées. Pas de musiciens ni chanteurs. Événement organisé par Laetitia, mais on ne sait pas qui va encaisser les bénéfices dans ce micmac autour de l'héritage.
Ouais, c'est le show autour du taulier qui durera 1h30. Pas de présentateur, vous l'avez dit. C'est en fait Johnny qui sera en quelque sorte le maître de cérémonie.
Sur l'écran. Avec les fans.
Ouais. Les places en vente demain à 13h, hein, sur le site de l'Olympia. Merci Sébastien, j'espère à bientôt, parce que vous avez de toute façon les résultats pour l'Euro Million, c'est 20h30.
J'aurais pas encore
gagné. C'est ça, donc filez pas trop loin. Anissa est bien là. Anissa, oui. Pour nous dire que c'est pas brillant.
Non, c'est même une journée très agitée qui s'annonce. Demain, alors sur un quart nord-ouest qui comprend la Bretagne, la Normandie, le Nord, les Ardennes, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, là, le ciel est très nuageux dès le lever du jour. Des nuages qui vont nous apporter des averses accompagnées de vents du sud et même quelques orages violents à prévoir. Donc c'est la totale demain. En Aquitaine, Midi-Pyrénées, la région Rhône-Alpes et en Franche-Comté, les pluies là aussi seront très soutenues toute la journée. En fait, c'est au bord de la Méditerranée, sur le Languedoc-Roussillon, sur la Corse, c'est là que la journée sera la plus agréable. Vous aurez droit même à quelques rayons de soleil au milieu de ces nuages très épais. Toujours dans le sud, sur les côtes varoises, la Corse et les Alpes. Attention, le vent se renforce, il va souffler fort demain jusqu'à 100 km/h. Alors cette perturbation, elle est présente jusqu'à jeudi après-midi. J'avais quand même envie de vous apporter une bonne nouvelle. Jusqu'à jeudi après-midi, ensuite c'est le retour du soleil et on aura un très belle fin de semaine et très beau week-end. Bon, voilà, je m'avance pas pour la semaine d'après. En attendant,
on confirmera.
Les températures pour demain, elles sont comprises entre 9 et 14 degrés le matin, 15 à 18 près de la Méditerranée. Demain après-midi, il fera frais sous la pluie sur les trois quarts nord. 12 à Verdun, 14 à Lille et Belfort, 16 à Paris, 20 à Bordeaux, 22 à Nice et 24 à Montpellier.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On vient de l'entendre dans le journal de Sébastien Krebs, un peu partout en France aujourd'hui, dans l'Aisne, le Var, la Drôme, le Bas-Rhin par exemple, colère nationale des agriculteurs. Le slogan de cette mobilisation, France, veux-tu encore de tes paysans? Le but est d'interpeller le gouvernement, mais aussi les citoyens sur la détresse du monde agricole. Je reçois dans 2 minutes dans ce studio Jérémy Dutour, des jeunes agriculteurs.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Des routes bloquées aujourd'hui dans de nombreuses régions françaises. La colère du monde agricole pour interpeller les citoyens mais aussi le gouvernement. Vous recevez ce soir Jérémy Dutour. Il est agriculteur dans le Gers et secrétaire général des jeunes agriculteurs.
Bonsoir Jérémy Dutour.
Bonsoir.
Bienvenue au micro d'Europe 1. J'avais envie de vous entendre ce soir parce que ces actions de blocage, de barrages filtrants un peu partout en France, on l'a dit dans de nombreux départements, n'est-ce pas à double tranchant, est-ce que ça ne risque pas de retourner le public contre vous ?
Ah oui, effectivement, il y a eu une centaine d'actions sur le territoire. Aujourd'hui, 10 000 agriculteurs présents sur le terrain, plus de 4 000 tracteurs pour montrer un petit peu la présence des agriculteurs. Et ben, force est de constater que malgré tout le désarroi qu'on connaît aujourd'hui, on a quand même un certain contact avec le consommateur, le citoyen. On est quand même plutôt soutenu dans nos actions puisqu'on se montre à l'écoute, on essaye d'évoluer, de répondre à leurs attentes. Et on est face à un gouvernement qui, par contre, ferme complètement les écoutilles lorsqu'on lui parle. Ça fait 3 ans qu'on essaye de construire avec lui une stratégie agricole pour notre pays. Ouais. Et aujourd'hui, on est assaini par
C'est le gouvernement que vous pointez ou c'est le consommateur? Parce que le mot d'ordre aussi, et surtout l'objet de cette mobilisation, c'était de dire, ben voilà, on est... L'agribashing, c'est aujourd'hui notre quotidien. L'utilisation des pesticides, on va y revenir évidemment. Les accords de libre-échange, ça s'adresse au gouvernement. Mais l'agribashing est, par extension, le consommateur et le citoyen qui, du coup, se détourne de l'agriculteur.
Alors, l'agribashing, il est quand même porté par différentes associations ou, on va dire, hommes politiques qui font de cet acte-là au quotidien leur fer de lance. Mais nul n'est 100% de la population concernée par ces mots qu'on nous a
fait. Vous dites victime de fake news, vous dites victime de oui, mauvaises informations.
Combien de personnes sur la totalité des citoyens véhiculent ces idées-là? C'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont une grande aura, une grande écoute que ça concerne 100% des gens. Nous, on s'adresse aux gens qui ont envie de soutenir l'agriculture. Donc, ces actions-là, dernièrement, ont eu 2 phases avec les feux de la colère dans nos campagnes principalement. On est allé à la rencontre là, des consommateurs pour essayer de les faire devenir consommateurs. Ils nous demandent des choses, on les réalise. Ils ont aussi les clés entre leurs mains. Acheter français.
Qu'est-ce que vous dites alors aujourd'hui? Parce qu'on voit la situation très alarmante des agriculteurs, les burn-out, les suicides, des chiffres explosifs. Pourquoi d'ailleurs ce n'est pas ce sujet-là qui est dans cette mobilisation aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas ça qu'on voit sur les banderoles?
Parce que c'est un sujet qui touche évidemment notre profession, mais nous, notamment jeunes agriculteurs, on a envie de voir l'avenir. L'avenir pour nous, ce n'est pas ce contexte morose, c'est de chercher des solutions, de trouver des solutions, de construire. Et en aucun cas, on ne peut faire de ce constat qui existe une généralité et surfer là-dessus. C'est voué à l'échec que de voir le pessimisme en permanence.
Alors, votre aujourd'hui, votre désarroi, il se situe où? Il se situe à la fois vis-à-vis du gouvernement. C'est un avertissement aujourd'hui, cette mobilisation. C'est un premier round.
Ça s'appelle un premier avertissement.
Avertissement.
C'est pourquoi on a voulu aujourd'hui une action, malgré tout, de courte durée, une action coup de poing entre 11h et 14h pour essayer d'éviter d'ennuyer au maximum les concitoyens qui travaillent, qui utilisent les axes routiers le matin, le soir pour partir, rentrer du boulot. Mais malgré tout, force est de constater que pour venir percuter le gouvernement, il faut des actions coup de poing de grande ampleur. Et c'est pourquoi on a fait ce choix d'une grande mobilisation nationale aujourd'hui pour se faire entendre. C'est un premier round, comme vous dites. Il y en aura certainement un autre ces prochains jours si le gouvernement ne change pas le fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que la déconsidération du métier. On est quand même aujourd'hui l'agriculture française nommée par The Economist comme modèle le plus durable au monde.
Est-ce qu'à aucun moment vous faites votre mea culpa avec la FNSEA? Est-ce que vous n'avez pas jeté les agriculteurs dans le productivisme mondial, dans la concurrence déloyale aussi, qui tue les agriculteurs et qui tue l'environnement? Est-ce qu'on ne peut pas se regarder en face et se dire ça à un moment?
Non, nous, personnellement, on n'a pas mis les agriculteurs dans cette situation. On répond à un marché qui est mondial, mais avec des normes à la fois européennes et franco-françaises de surcroît, qui nous génère des charges supplémentaires sur nos exploitations par rapport à un marché mondialisé avec des pays qui, eux, produisent des produits visuellement les mêmes que les nôtres, mais avec des coûts complètement différents.
Il n'y a aucun bienfait dans toutes ces normes, la politique agricole commune, d'autres. Vous n'y avez trouvé à aucun moment aucun soutien?
Alors, là je ne suis pas d'accord parce que aujourd'hui, on réalise avec fierté notre métier au quotidien, qui est toujours plus vertueux d'année en année malgré tout. On essaye de coller au mieux aux attentes des consommateurs. Mais ce qu'on dit, c'est que nos efforts ont un coût par rapport aux autres pays. Quoi.
Évidemment, les zones de non-traitement aux pesticides, les ZNT, ça a mis le feu aux poudres, hein, si j'ose dire. Aujourd'hui, 5 ou 10 mètres, c'est la préconisation des scientifiques. Est-ce que vous dites quand même c'est un enjeu de santé publique?
Alors, des scientifiques, je ne suis pas sûr
sur lesquels s'appuie le gouvernement.
Que toutes les agences scientifiques prônent ce discours-là. Les ZNT ont évidemment mis un petit peu le feu aux poudres ces derniers temps, parce qu'en fait, c'est plus un message qui a été poussé par la théorie de la peur, l'idéologie, que le pragmatisme. Aujourd'hui, on est capable d'appliquer un produit phytopharmaceutique sur une page A4 au milieu d'une pièce. Quoi. Mais c'est prouvé.
C'est prouvé, mais il y a un enjeu de santé publique. On ne peut pas transiger avec ça.
Il y a un enjeu de santé publique.
Jérémy Dutour, est-ce qu'on peut transiger avec la santé ?
Il y a un enjeu de santé publique au même titre que vous mettez de l'antipuce sur votre chien, que vous mettez de l'antimoustique dans vos pièces juste avant de coucher vos enfants. Que vous appliquez toutes sortes de produits sur votre corps au
même
quotidien.
Même combat, c'est la même chose. Vous comparez,
il faut pas comparer. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande à nous d'avoir un comportement qui n'est pas respecté par le reste. Nous savons ce que nous faisons avec les produits dont nous sommes autorisés à appliquer. Et on ne voit pas pourquoi on devrait, du jour au lendemain, nous bousculer tout ça.
Merci beaucoup, Jérémy Dutour, d'être venu ce soir en direct. C'est un avertissement au gouvernement, avez-vous dit, ce soir. On se retrouve dans un instant, Anissa.
Oui, avec les grandes voix, effectivement, et toutes vos réactions. 39-21, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
C'est le rappel des titres avec vous, Sébastien Krebs.
Et Christophe Castaner, sous le feu des questions après l'attentat de la préfecture de police de Paris, auditionné en ce moment même par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur reconnaît un dysfonctionnement sans précédent, mais assure que des mesures ont été prises pour que cela n'arrive plus. Ce matin, à l'occasion de l'hommage national aux 4 victimes de l'attaque, Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation de tous contre le terrorisme et à une société, je cite, de la vigilance. Les Rouennais dans la rue attendent des réponses. Habitants, associations et collectifs regroupés via les réseaux sociaux manifestent ce soir, 10 jours après l'incendie de Lubrizol, pour exiger la vérité. Les opérations pour enlever les fûts endommagés et qui dégagent toujours des odeurs sur le site pourraient débuter la semaine prochaine. Les nouvelles attaques de Donald Trump sous la menace d'une procédure de destitution. Le président américain dénonce, je cite, un tribunal bidon. Il a pris la décision d'interdire à l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne de témoigner devant la Chambre des représentants. Et puis, le retour de l'équipe de France féminine de foot pour le début des qualifications de l'Euro 2021. Elles sont en déplacement au Kazakhstan. Le coup d'envoi a été donné à 17h et ça se passe plutôt bien pour les Françaises puisqu'elles mènent 2-0 dans ce match. On joue en ce moment la deuxième période.
Sébastien Krebs, vous revenez évidemment avec un nouveau journal complet à 19h.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa ?
Oui, Nathalie.
Est-ce qu'il fera beau et où fera-t-il beau demain ?
Alors, demain, ça va être très simple. C'est seulement au bord de la Méditerranée, sur le Languedoc-Roussillon, sur le sud-ouest, donc une petite partie du Pays Basque et la Corse. Voilà, c'est là, seulement là, que le temps sera sec demain. Partout ailleurs, sur les trois quarts nord du pays, le temps reste nuageux, pluvieux, avec sur les côtes de la Manche, l'Alsace et le Jura, des averses à caractère orageux. Soyez prudents. Sur la Corse, les Alpes et les côtes varoises, là, le vent se met à souffler fort, jusqu'à 100 km/h. Les températures, 8 à 15 du nord au sud. Demain, de Niort à Perpignan le matin, 11 à Paris. Demain après-midi, les maximales baissent un petit peu encore, avec 14 degrés à Rodez, 16 à Paris, 18 à Lyon et 23 à Marseille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Nos grandes voix dans ce studio ce soir pendant une demi-heure et avec vous tous également auditeurs au 39-21. N'hésitez pas à nous contacter, à poser des questions, à livrer votre lecture de l'actualité dans ce studio. Gérard Carrérou, bonsoir Gérard.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue à vous, bonsoir et bienvenue à Mickaël Darmon.
Bonsoir.
Et on accueille Julie Graziani ce soir également dans ce studio. Bonsoir Julie.
Bonsoir Nathalie.
Julie Graziani, vous êtes éditorialiste pour L'Incorrect. On est donc ensemble pendant cette demi-heure pour revenir notamment sur les mots très forts aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le président a appelé à un combat sans relâche contre, je cite, l'hydre islamiste, en rendant hommage à la mi-journée aux 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués la semaine dernière par leurs collègues. Gérard Carrérou, c'est un hommage offensif qu'a rendu Emmanuel Macron. On est en face d'un tournant ?
Oui, on est en face d'un tournant. Alors, il y a eu effectivement ce matin d'abord le recueillement et l'émotion devant ces cercueils. Et puis, assez rapidement, avec le discours du président, on a vu que cette fois-ci, le président de la République avait pris l'ampleur, avait compris l'ampleur du problème de l'islamisme radical. Et on peut dire que c'est une véritable... Ça m'a rappelé un peu celle qu'avait faite Manuel Valls il y a quelques années. C'est une véritable déclaration de guerre à l'islamisme radical. Cette fois-ci, on appelle clairement par son nom l'islamisme radical, islam dévoyé, etc. Il l'a dit au moins une demi-douzaine de fois. Et alors, donc ça, c'est déjà très fort. Ensuite, il y a les moyens, parce que le discours, c'est bien. Après, il y a les moyens. Les moyens, effectivement, ils sont de deux ordres. Il y a tout ce qu'on peut mettre au niveau moyens, police, etc. Mais il y a surtout, et c'est sans doute ce qu'on retiendra le plus du discours, il y a surtout l'appel... La patrie est en danger, en quelque sorte, c'est l'affaire de chacun.
Chacun la vigilance, d'entre nous, l'appel la vigilance, aux citoyens, voilà. À son voisin.
Avec la difficulté de comment être vigilant sans être suspicieux de son voisin.
On et dit, oh, il a l'air bizarre. Voilà.
Mais en tout cas, c'est un. Alors, c'est quelque chose que les anglo-saxons connaissent bien. Hein, c'est dans l'esprit anglo-saxon, la vigilance nationale. Mais en France, on pense à l'occupation, ouais. On pense tout de suite à la dénonciation et c'est moins facile.
Il y a deux questions, Michael Darmon, Julie Gradiani. Il y a cette offensive, ces paroles très fortes d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a. Évidemment, ces problèmes de communication, les ratés de communication de l'exécutif hein, depuis ce drame, c'est une manière aussi, Julie Gradiani, de rétablir.
Ah oui, il y avait sans doute une façon de rétablir la bourde de Christophe Castaner qui avait minimisé dès le début ce qui était à l'évidence, compte tenu du mode opératoire, une attaque de nature terroriste islamiste. Donc en mettant une bonne couche sur « on va s'attaquer à l'hydre islamiste ». Mais le propos, personnellement, m'a mis très mal à l'aise pour le coup. Parce que c'est vrai que, comme le sous-entend un peu Gérard, dans « société de vigilance », moi j'entends « société de délation », bah, bien sûr. Et on voit bien en plus qu'il esquive un peu le sujet parce que il sous-entend, je le cite verbatim de mémoire, qu'il va falloir signaler les relâchements, les comportements déviants, sans dire que c'est sur une base confessionnelle, mais sur quoi d'autre, puisque les signes dits de radicalisation de l'individu, c'était typiquement des signes de religiosité exacerbée. Donc s'il s'agit d'aller dénoncer son voisin musulman, parce qu'on trouve qu'il va un peu trop souvent à la mosquée, il n'en est pas question, je veux dire. Et là, il me semble qu'on place les gens, le citoyen, dans une forme de forme d'injonction contradictoire, puisqu'à la fois, on lui dit il n'est pas question de stigmatiser sur une base confidentielle, pas d'amalgame, ne soupçonnez pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans et de ce seul fait. Et en même temps, on va leur dire, il va falloir dire s'il ne serre pas la main à une femme ou si il porte un camis.
Frontière, enfin, la frontière est hyper tenue.
On est sur une ligne de crête. Ouais.
Voilà, Michael Darmon, comment on fait pour s'organiser avec ça? On a vu déjà du côté de l'opposition à gauche, on est monté au créneau pour dire, bah voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer des coups de fil pour balancer son voisin, pour balancer son...
Non, mais voilà,
on est, non, c'est on vrai est... que aujourd'hui, cet hommage, c'est un acte politique majeur, hein, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron décrète une sorte d'état de non pas d'urgence, mais d'état de vigilance nationale. Et ça, ça change effectivement toute la donne dans le... ça peut changer toute la donne au cœur de la société. On voit bien également le mouvement politique qui se fait. Au printemps, l'acte 2 du quinquennat était vert. Cette fois-ci, à l'automne, il devient sécuritaire. C'est terminé. On est maintenant dans une autre logique politique parce que Macron a compris que, quels que soient les résultats économiques éventuellement corrects qu'il pourrait avoir à la fin de son mandat, il sera jugé sur les questions du régalien, de l'identité, de l'intégration, de l'immigration, de l'islam. Et cela, il le comprend et il envoie le message, y compris à sa majorité, qu'il veut perturber de ce point de vue-là.
Sauf que le caractère de suspicion, vous l'avez dit, Julie Graziani, et Gérard, je vais vous interroger là-dessus juste après la pause. Du coup, il va s'installer, il va régner désormais. Et puis, quels moyens on se donne quand on voit que toutes les mosquées salafistes ne sont pas fermées? Quels moyens on se donne? On va y venir dans un petit instant avec nos auditeurs aussi au 39-21.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Gérard Carrérou, Michael Darmon et Julie Gradiani, éditorialiste pour l'Incorrect. Vous pouvez bien sûr interpeller les grandes voix. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21.
Et vous aussi au 39-21, Anissa vient de le dire. Donc c'est Richard qui a composé ce numéro et qui nous a appelé depuis Angers. Bonsoir Richard, bienvenue.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi, pour moi, disons, le discours de Macron, du président Macron, est un leurre. En réalité, on n'a jamais rien fait contre, si vous voulez, ces vagues de d'attentats, etc. Et je ne comprends pas que des personnalités telles que M. Castaner et son secrétaire d'État, professionnel de métier, n'aient pas envisagé une seule instant de mettre, si vous voulez, des moyens pour éviter l'introduction, ou du moins le repérage de top. Vous savez, les top au milieu, comment dirais-je, terroriste, ça existe. Ça existe de tout temps. Et je ne comprends pas ce que ces personnalités importantes du gouvernement n'aient pas mis en place depuis de longues années, ou du moins de longtemps, des dispositifs de ce type-là.
Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Aujourd'hui, Richard, ce que vous dites, c'est que Christophe Castaner a une responsabilité. C'est lui le responsable ? Il est sur la sellette, évidemment.
C'est le système, si vous voulez. Ça fait 2 ans que M. Macron est président. Là, il fait des discours. Mais je ne pense pas qu'il prend vraiment la dimension du problème. La dimension du problème, vous la voyez à Paris, vous la voyez à Marseille, vous la voyez dans des villes de ce type-là. Je pense qu'on devrait être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sévère pour l'obtention d'un passeport ou d'un permis de séjour.
Merci beaucoup, Richard, de votre intervention ce soir en direct sur Europe 1. Michaël Darmon, Gérard Carrérou, Julie Gradiani. Il y a la question évidemment de Christophe Castaner aujourd'hui. Il est auditionné là, à l'heure où nous parlons, une fois encore dans la journée. Et puis il y a la question effectivement des moyens qui se posent sur comment faire pour repérer. Comment faire aussi pour lier le geste à la parole quand Emmanuel Macron dit OK, leader islamiste, mais quels moyens il met à disposition ?
Là, justement, ce qui se passe en ce moment, la commission des affaires parlementaires et de renseignement plutôt, c'est effectivement un moment assez important, assez technique, il faut dire, j'ai regardé ça un peu au début, qui permet d'ailleurs à Christophe Castaner de faire un exposé assez maîtrisé et assez, de haut niveau sur tous les processus qui existent, avec quand même deux choses. D'abord, un, reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements et des failles. Deux, raconter l'ensemble des procédures qui existent à l'aune également des changements. Il faut voir qu'en 2015, parce qu'on qualifiait le début de la radicalisation par ses propos, donc de Michaël Harpon, en partir de 2015, la perception de la menace était surtout extérieure. C'est la première fois qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui est passé à l'acte de l'intérieur. Donc on voit qu'il y a tout un nouveau process qui va se mettre en place, qui prendra effectivement du temps. Alors, cela dit, pour revenir aussi à ce qu'a fait aussi Emmanuel Macron ce matin, et ce qu'il a voulu faire, un petit peu aussi on rentre dans les coulisses de la préparation de ce discours, il avait demandé à ses conseillers de lui préparer un discours aux accents de Clémenceau 1917 sur le sursaut national. D'ailleurs, il a plusieurs fois utilisé des expressions faire bloc, faire esprit de résistance, comme il avait fait à l'époque à l'hommage donc du lieutenant Beltrame aux Invalides.
La prise d'otage, le super rue.
Absolument, à Trèbes. Et il avait voulu à ce moment-là commencer à marquer les mots. Là, aujourd'hui, il va plus loin. Et le nouvel acte politique, c'est de dire tout le monde et la nation doit être mobilisé pour lutter contre l'islamisme radical.
Il avait déjà aussi employé, sans aller sur leader islamiste, mais il avait déjà été quand même dans cette tonalité sur le plan banlieue en 2017. Gérard Carrérou, il y a deux aspects. Il y a le caractère de suspicion, on le disait, qui va de fait régner.
Appelons un chat un chat, puisque le président de la République nous y a invités ce matin, puisqu'il a désigné clairement et nommément plus que jamais, depuis qu'il est président, l'islam radical comme notre ennemi. L'islam radical, l'islam dévoyé, c'est un dévoiement de l'islam, certes, mais c'est de l'islam tout de même. Ce qui veut dire que la vigilance dont il demande à l'opinion de s'emparer, et effectivement, on l'a dit, entre vigilance et suspicion, et de suspicion à dénonciation, tout ça, ce sont des barrières, on glisse facilement de l'un à l'autre. Donc, cette vigilance et cette suspicion vont s'exercer d'abord, et évidemment, et surtout, à l'égard des 8 millions de musulmans qui sont dans notre pays, à l'école, à l'hôpital, dans les transports, en prison, partout. Partout. Et là, le risque majeur politique, c'est de se retrouver dans cette situation qu'avait laissé entendre Gérard Collomb lors de son dernier discours, c'est à un moment donné le face-à-face entre des communautés. Ceux qui diront... C'est pas possible, regardez, on les dénonce et les autres qui vont effectivement pas se laisser dénoncer.
C'est pour ça que, est-ce qu'il est judicieux de parler de dysfonctionnement ? Car enfin, ce qu'il est reproché à ses collègues dans ce service, c'est de ne pas avoir dénoncé quelque chose qui est quand même de l'ordre des signaux faibles. Qu'est-ce qu'on dit ? Il a fait un changement vestimentaire, il mettait un camis ou je sais pas, il serrait pas la main aux femmes ou il leur faisait plus la bise. Bon, excusez-moi, moi j'ai un excellent ami qui est chiite, il me serrera jamais la main, il me fera jamais la bise. C'est pas pour autant qu'il ira poser une bombe ou tuer quelqu'un. Donc on voit bien qu'il qu'il y a une difficulté aussi à qualifier ce qui est de l'ordre de la radicalisation. Et en fait, on est face à des individus qui se dissimulent. Donc, les seuls qui sont compétents et habilités à les démasquer, ce sont les services de renseignement. Alors, peut-être y a-t-il eu du dysfonctionnement au niveau des services de renseignement, mais par hypothèse, là, on est dans une zone grise, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais au sein d'un service avec des collègues, je ne vois pas bien ce qu'ils auraient pu faire sur la base d'éléments aussi filandreux.
Emmanuel Macron qui muscle son discours face à la menace du terrorisme islamiste. On y revient avec nos grandes voix. Débat animé, on y revient évidemment dans un petit instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Julie Graziani, éditorialiste pour l'incorrect, et toutes vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, le standard d'Europe 1.
Jamais dans les discours qu'il a eu à prononcer depuis le début de son quinquennat pour rendre hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron n'est allé aussi loin. On en discute évidemment ce soir avec vous, les grandes voix. À droite et à l'extrême droite, on lui avait reproché. On lui avait reproché de ne pas oser nommer le mal. Aujourd'hui, il l'a fait avec, en plus, j'allais dire, le geste qui doit se joindre à la parole, puisqu'il appelle les concitoyens à dire les choses et à aller effectivement pointer son voisin, si c'est le cas. Là, on est dans le risque de stigmatiser les musulmans.
Oui, mais c'est vrai qu'on le voit encore ce matin, il nomme, mais et on nous dit depuis quelques jours au gouvernement, il ne faut pas parler à chaud. Il vient à chaud et dans le moment le plus puissant de l'émotion nationale, c'est-à-dire quand on rend hommage aux victimes, à l'endroit d'ailleurs où le drame s'est passé, tout d'un coup, il fait un discours très puissant et avec une consigne nationale extrêmement puissante. Mais ça n'enlève pas le fait que tout cela vient ne peut pas combler ce qui manque depuis le départ, c'est-à-dire la fameuse prise de parole ou les propos d'un président de la République tel que Macron veut installer aussi son mandat, c'est-à-dire avec un récit national, un roman national, pour dire quelles sont les valeurs qui doivent fonder et créer la société française d'aujourd'hui. Ce fameux discours sur la laïcité, sur les valeurs, il le fait de manière un peu comme ça, en filigrane, dans chaque discours, en pointant les divisions qui nous minent, en pointant les dangers du séparatisme, de la sécession. Mais ce grand moment, il n'a pas voulu le faire. Ça a commencé, le travail a commencé au début du quinquennat, il a été décidé de ne pas le faire. Ça, on ne comprend pas pourquoi.
Il avait juste, pardonnez-moi, en avril 2019, au moment de la conférence de presse post-crise de Gilets jaunes, il avait commencé à dire, il avait dénoncé le communautarisme qui s'est installé dans certains quartiers de la République, annoncé qu'il serait intraitable face à l'islam politique qui veut faire sécession avec notre République, mais il n'était pas allé plus loin.
Il y avait des projets beaucoup plus audacieux. Mais
on met le paquet, si j'ose dire. D'un seul coup, on met le paquet. On a eu quand même le Premier ministre hier qui a effectivement dénoncé la sécession. La sécession.
Ça, c'était dans le discours sur l'immigration.
Oui, mais ça fait rien.
Mais bien sûr.
Il l'a pas fait par hasard hier. Et là, on a cet appel à la vigilance nationale qui ne peut s'exercer qu'à l'égard d'une partie de la population. Je pense qu'il a pris. Il a voulu sans doute bien faire montrer qu'il avait saisi l'ampleur du problème. En même temps, il prend un risque politique considérable.
Mais ça veut dire quoi aussi concrètement, Julie Gradiani? Ça veut dire qu'il faut contrôler aussi les financements étrangers aujourd'hui, parce que c'est bien joli ces propos. Mais il va falloir fermer les mosquées salafistes. Il va falloir agir.
Ben, c'est ça en fait, ça me fait un peu penser à la réaction, vous savez, de ces parents qui laissent tout faire à leurs enfants et puis qui tout à coup, exaspérés, se mettent à balancer des paires de claques dans tous les sens. Parce que, excusez-moi, là c'est mon instant de mauvaise humeur, étant donné que moi-même et mon magazine sommes régulièrement la cible d'attaques selon lesquelles on serait d'extrême droite, identitaire, etc. etc. Bon, nous ça fait des années qu'on dit promouvons l'identité française, défendons-la, faisons-la rayonner pour arrimer les populations d'origine étrangère à la France, construisons un roman national, donnons envie de nous rejoindre. Bon, quand on dit ça, on se fait traiter de tous les noms et qu'on est des sommes droites et fascistes et identitaires et j'en passe et des tant mieux. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben qu'il faut donc faire la délation et se méfier de nos collègues et voisins musulmans. Voilà, on passe complètement à la réaction extrême de l'autre sens.
Alors, après, attention,
alors peut-être revenons à des choses de bon
c'est vrai,
sens.
Mais attention, raccourci, on ne serait pas forcément
De faire aimer la France,
pour
juste,
mettre
simplement.
Un bémol aussi, on n'est pas forcément dans une logique de réaction, de délation et de stigmatisation. Parce que l'idée aussi, c'est qu'à l'intérieur même de l'islam de France, il y a énormément, des millions de musulmans qui n'acceptent pas ce qui se passe et qui donc pourraient être fondés eux-mêmes également à protester, à signaler, et qui le font d'ailleurs assez régulièrement. Oui. Donc peut-être aussi que ça va contribuer à faire aussi société de ce point de vue.
Oui, s'il s'agit de distinguer entre le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire de distinguer l'islam radicalisé de l'islam.
C'est à la hiérarchie religieuse de s'organiser, en fait.
Mais... à condition qu'elle s'organise de la sorte.
Elle doit le faire.
C'est terminé, mais c'est passionnant. Et vous reviendrez sur ce sujet parce qu'on n'a pas fini, évidemment, d'en parler, tant par rapport au discours sur l'immigration que, évidemment, le dossier qui va se poursuivre avec l'enquête sur la préfecture de police de Paris. Merci à tous les trois. Julie Gradiani, c'est un mensuel, le magazine L'Incorrect, votre magazine. Michaël Darmon et Gérard Carrérou, merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, on vous livre évidemment le journal de 19h de Sébastien Krebs. Il nous rejoint dans un tout petit instant en direct à la une de l'actualité, notamment ce soir. Nouvelle audition là pour Christophe Castaner après celle de ce matin, le ministre de l'Intérieur en ce moment devant la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy.
Avec le programme pour cette nouvelle heure d'info, 19h10, l'invité politique de David Doucan, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, sera dans ce studio. 19h20, demain en France, on prend la direction de Lyon ce soir où Emmanuel Macron est attendu demain soir. Demain dans le monde, la Turquie prête à lancer une nouvelle offensive en Syrie. Et puis à 19h30, c'est la semaine du goût. Comment apprendre le goût, le bien manger à nos enfants? On fait travailler nos papis. Vos conseils au 39 21, réagissez évidemment.
Et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. On lit tous vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Très bon début de soirée sur Europe 1, il est 19h.
Ce qui s'est passé jeudi est une tragédie, mais c'est aussi une défaillance grave qui ne doit pas se reproduire.
Le ministre de l'Intérieur appelé à s'expliquer, interrogé par les députés ce soir, Christophe Castaner reconnaît un dysfonctionnement après l'attentat de la préfecture de police de Paris.
Les Rouennais dans la rue veulent des réponses. Habitants et associations manifestent pour demander la vérité sur l'incendie de Lubrizol.
Dans l'actualité également ce soir, après la mort d'un lycéen poignardé en Seine-Saint-Denis à la sortie d'un cours de sport, les enseignants exercent leur droit de retrait. Et puis la belle opération de l'équipe de France féminine de foot, les Bleus démarrent très bien leur qualification pour l'Euro 2021. 3-0, c'est le score à la fin du match au Kazakhstan.
Et la tendance météo avec vous, Anissa?
Eh bien, les températures baissent légèrement demain et toute la France, presque toute la France, sera sous les nuages et la pluie.
Europe 1.
Où sont donc les failles qui ont permis à un agent de la préfecture de police de Paris de tuer 4 de ses collègues à l'arme blanche au sein même des bureaux de la direction du renseignement? Pourquoi n'a-t-il pas été signalé alors même qu'il avait montré des signes de radicalisation? Le ministre de l'Intérieur est sous le feu des questions ce soir, questions des députés. Ça a commencé dès ce matin à huis clos devant la délégation parlementaire au renseignement. Ce soir, ça continue devant la commission des lois, Christophe Castaner, qui reconnaît une grave défaillance.
Nous n'avons connaissance que d'un signalement informel potentiel en juillet 2015, quelques mois après un commentaire de l'assaillant sur l'attentat de Charlie Hebdo. Je ne commenterai pas plus avant, mais il semble que ce témoignage n'a pas été formalisé et n'est pas parvenu au bon niveau hiérarchique. Il n'y a aucune trace écrite à l'heure où je vous parle de ce signalement. C'est un dysfonctionnement sérieux. C'est une faille grave. Et peut-être qu'effectivement, ce qui pouvait être considéré comme un non-signal doit être maintenant considéré comme un signal faible. Peut-être qu'un signal faible est en réalité un signal fort et donc il faut qu'il y ait des alertes systématiques. Ce qui s'est passé jeudi est une tragédie, mais c'est aussi une défaillance grave qui ne doit pas se reproduire.
Christophe Castaner à l'Assemblée nationale tout à l'heure.
Et au-delà de cette audition, il y aura bientôt une commission d'enquête parlementaire, Sébastien, sur ces questions.
Elle sera formée dès la semaine prochaine par des députés à la demande du groupe Les Républicains. Éric Ciotti en sera le rapporteur. Éric Ciotti qui sera l'invité demain de la matinale d'Europe 1.
Et Alain Accot est avec nous dans ce studio. Vous nous avez rejoint ce soir car on en sait un peu plus sur le contenu, Alain, de la clé USB du suspect.
Oui, cette fameuse clé qui inquiète tant les policiers parce qu'on y a trouvé des données personnelles de plusieurs dizaines de fonctionnaires. Eh bien, je peux vous dire ce soir que 160 enquêteurs sont en train de travailler dessus. Vous avez bien entendu, 160 enquêteurs, c'est-à-dire quasiment tous les effectifs disponibles de la brigade criminelle, renforcés par des collègues des autres brigades du 36, une sorte de mobilisation générale en urgence pour vérifier au plus vite, un à un, tous les documents, toutes les données personnelles qui ont été copiées sur cette clé de 64 gigas Donc c'est une clé considérable avec des milliers de documents, un travail de titan, nous confiait il y a un instant un responsable de l'APJ qui insiste sur un point important. Cette clé est une clé de travail qui sert essentiellement à copier les documents d'un ordinateur pour les transférer sur l'ordinateur voisin ou de l'étage supérieur. Rien ne dit que cette clé n'est jamais sortie de la préfecture de police. C'est peut-être tout simplement une clé de travail, mais c'est pour vérifier ça donc que les policiers sont mobilisés au 36, tard ce soir, très tôt demain matin, pour au plus vite déterminer quels sont les noms des policiers. Précision encore importante, il n'y a pas de trombinoscope au sens strict du terme avec une liste de policiers, simplement des données individuelles de chaque ordinateur dont le contenu a pu être copié au fil des ans par cette clé.
Information signée Alain Acco du service, chef du service police-justice d'Europe 1. Merci.
Et de cette journée, on retient aussi la cérémonie d'hommage, hommage national rendu ce matin dans la cour de la préfecture de police, hein, Sébastien.
Oui, les insignes de la Légion d'honneur remis à titre posthume aux quatre fonctionnaires tués la semaine dernière, leurs quatre cercueils recouverts des couleurs bleu, blanc, rouge au centre de la cour et un discours du président de la République, discours très politique d'Emmanuel Macron qui en appelle à la mobilisation de tous contre le terrorisme. Les institutions seules ne suffiront pas, dit-il, demandant à chacun d'être vigilant sur les signes de radicalisation.
À Rouen maintenant, les enquêteurs ont enfin pu aujourd'hui débuter leurs constatations dans les ruines de l'usine Lubrizol.
Et cela pour rechercher les causes de l'incendie du 26 septembre. Jusqu'à présent, il restait encore des points chauds. Encore beaucoup d'interrogations demeurent essais pour demander la vérité que les Rouennais sont à nouveau dans la rue ce soir à l'appel de plusieurs associations. Vous êtes sur place, Hélène Terzian.
Oui, bonsoir Sébastien. Alors, vous l'avez dit, il s'agit de la deuxième manifestation depuis la catastrophe de Lubrizol. Je suis dans le cortège, il y a un peu moins de monde, environ un millier de personnes, beaucoup de syndicats, de militants associatifs et quelques centaines d'habitants. Pour eux, depuis près de deux semaines, l'émotion est retombée, mais tous, comme Fatima et Isabelle, exigent davantage de transparence de la part de l'État.
C'est une question de survie, je crois, parce qu'on nous a un peu menti. Lubrizol fait peur, c'est une bombe à retardement. Voir de la façon dont nos dirigeants ont soulevé le problème, ont éludé le problème, ça fait peur.
C'est trop tard pour avoir peur. Si on a été intoxiqué, on est intoxiqué. Différents ministres qui sont arrivés les uns après les autres en nous disant « Oui, ça sent pas bon, mais c'est pas si grave que ça. » On nous a pris pour des imbéciles.
Voilà, une colère loin d'être apaisée par l'arrivée ce matin des enquêteurs de la Gendarmerie nationale sur le site de Lubrizol. Tous les Rouennais que je croise et qui se dirigent actuellement devant la préfecture me le répètent, ils veulent la liste exhaustive des produits qui ont brûlé à l'usine de Lubrizol, mais aussi ceux qui ont brûlé dans l'entreprise attenante, elle aussi touchée par les flammes.
Hélène Terzian à Rouen pour Europe 1. On vous avait parlé de ce drame en Seine-Saint-Denis, ce lycéen de 15 ans tué à la sortie d'un cours de sport vendredi au Lila, tout près de Paris. Il s'était interposé lors d'une bagarre. Trois suspects de 14 et 15 ans ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée. Et ce drame déclenche aujourd'hui une forte réaction des enseignants de deux établissements. Jean-Gabriel Bourgeois, ils exercent leur droit de retrait depuis hier déjà.
Oui, cela fait deux journées sans cours au collège Marie Curie et au lycée Paul Robert au Lila, avec des enseignants de deux autres établissements voisins, mais aussi des parents d'élèves. Ils étaient une cinquantaine à se présenter devant le rectorat. Ils voulaient voir le recteur tous ensemble pour évoquer une situation commune, des meurtres à l'arme blanche sur leur territoire, sur fond de rivalité entre cités. Le troisième drame en moins d'un an, ça suffit, estime Gabriel Latanzio, délégué SNES-FSU.
On a expliqué de façon très concrète les violences, les homicides récents. Les services du rectorat savent très bien que les problèmes que nous rencontrons sont propres aux quatre communes environnantes, les Lilas, Romainville, Bagnolet, Pré-Saint-Gervais. Pour autant, le recteur refuse de nous recevoir ensemble.
Le rectorat affirme que le dialogue reste ouvert et se tient prêt à recevoir individuellement chaque établissement. Mais ça ne convainc pas les parents qui réclament des moyens contre les violences. Delphine, maman d'élèves au Lila.
C'est vraiment un choc de se dire qu'on est face à une institution qui n'en a rien à foutre de ce qui se passe sur notre territoire, de savoir qu'il y a eu quand même trois morts, trois jeunes qui sont morts et on nous dit non juste pour être reçus collectivement. Je suis scandalisée qu'on ne nous ait pas entendus. Je le prends comme une véritable agression et une violence de plus.
On reviendra, voilà, vous l'entendez, ils scandaient ça tout à l'heure, parents et professeurs, des profs qui comptent exercer à nouveau leur droit de retrait demain pour la troisième journée consécutive.
Jean-Gabriel Bourgeois, merci.
Et on termine, Sébastien, avec le retour très réussi des bleus au féminin.
Avec un E, l'équipe de France féminine de foot, premier match des qualifications de l'Euro 2021. Et victoire ce soir au Kazakhstan avec un très beau score. Axel May, vous avez suivi ce match sur place, 3-0.
Oui, les Français sont venus ici au fin fond du Kazakhstan pour gagner. Mission remplie, même si le match fut assez laborieux. 0-0 à la mi-temps, mais la gardienne kazakh n'a fait que retarder l'échéance. À l'heure de jeu, Valérie Gauvin ouvre le score. Puis à la 70e, la capitaine Eugénie Le Sommer enfonce le clou. Et en toute fin de match, la jeune Marie-Antoinette Katoto inscrit d'une tête le but du 3-0. On retiendra donc la victoire et aussi la drôle d'ambiance. À des années-lumière de ce qu'ont connu les Bleus lors de la Coupe du Monde ou même lors du match amical qu'elles ont gagné vendredi à Nîmes. Prochain match de qualification dans un mois. Le voyage sera moins long puisque ce sera à Bordeaux face à la Serbie.
Axel May au Kazakhstan pour Europe 1.
6000 km à l'est de Paris quand même. Ça fait du chemin. Merci à vous Axel May. Merci à vous Sébastien. Vous êtes plus près. Vous revenez donc à 19h30 en direct dans ce studio.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse. Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, un peu plus fresqué demain.
Oui, c'est ça exactement Nathalie. Les températures sont en légère baisse demain à cause de cette perturbation qui traverse le pays depuis deux jours maintenant. Et cette perturbation, elle apporte beaucoup de pluie. Demain matin, du nord au sud, nous aurons 8 à 15 degrés, 8 à Niort, 15 à Perpignan, 11 degrés au lever du jour à Paris. C'est frais. Et demain après-midi, c'est frais encore au nord sous la pluie. 13 à Metz et Charleville-Mézières, 14 à Aurillac et Lille, 16 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 19 à Toulouse et Biarritz, 23 à Marseille, 24 à Bastia. Alors sur les trois quarts nord du pays, la journée sera très pluvieuse demain, voire même orageuse sur les côtes de la Manche et l'Alsace. Des orages qui peuvent être localement forts, soyez prudents. Il n'y a que le long de la Méditerranée, finalement, en Corse et sur le sud-ouest, sur le Pays Basque, que vous pourrez passer une journée sans parapluie. Le temps sera sec, avec quelques apparitions du soleil. Sur les côtes varoises, la Corse et les Alpes, là aussi, soyez prudents. Le vent se lève, il souffle fort, jusqu'à 100 km/h demain.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec vous Nathalie Lévy.
19h10, l'heure de l'interview politique dans le Quelques Secondes avec votre invité ce soir David Doucan. Bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie, mon invité est Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, Les Républicains. Le mot-clé en ce moment c'est dysfonctionnement, dysfonctionnement au sein de la préfecture de police de Paris. Comment est-ce qu'un salarié, un fonctionnaire de cette préfecture a pu se radicaliser et ensuite passer à l'acte. On verra ce que l'ancien ministre de l'Intérieur a à dire sur la question.
Et l'interview politique, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy.
Et David Doucan, vous recevez ce soir le député européen Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux.
Bonsoir Brice Hortefeux.
Bonsoir David
Alors
Doucan.
Emmanuel Macron, ce matin, présidait la cérémonie d'hommage aux quatre policiers qui ont été tués jeudi par l'un de leurs collègues qui s'était radicalisé. Et voilà ce que Emmanuel Macron a dit aux policiers qui étaient présents dans cette cour de la préfecture de police. « Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. » Ce sont des mots forts du président Macron, mais on a le sentiment de les avoir entendus 10 fois. Nicolas Sarkozy en 2012 après les actes perpétrés par Mohamed Merah, François Hollande en 2015, en 2016. Est-ce que franchement, Brice Hortefeux, la France n'est pas sans défense face à ce terrorisme islamiste, en particulier celui qui nous vient de l'intérieur?
Bon, votre question a 14 tiroirs. Là. Premier élément, Emmanuel Macron a tenu un discours avec les mots qu'il devait prononcer. Et c'est une évolution, puisque pendant la campagne présidentielle, il avait été au contraire d'une très grande prudence, pour ne pas dire une ambiguïté sur ces sujets, que ce soit le communautarisme, que ce soit les questions migratoires, que ce soit sur un certain nombre de points qui sont des points essentiels pour l'équilibre de notre communauté. Donc il y a sur ce plan-là une évolution qui est une évolution positive. Deuxième élément, oui bien sûr, le terrorisme c'est une menace qui est une menace qui ne date pas de la semaine dernière. Et depuis 2012, de mémoire, il doit y avoir eu 28 attentats terroristes. Dans notre pays, de 268 victimes, auxquelles il convient malheureusement d'en ajouter donc 4. Mmh. Et ça veut dire que près de la moitié des attentats qui sont commis en Europe ont lieu sur notre territoire. Donc nous sommes un territoire ciblé.
Je précise que 59 attentats ont été déjoués, oui. Déjoués sur les 6 dernières années.
Oui, c'est donc ça. Cela, mais quand ils
nous
sont déjoués, c'est une bonne nouvelle.
Donc, sommes d'une cible,
nous sommes dans une situation bien particulière, la France. Nous sommes à la fois un pays source et un pays cible, dans les deux cas. Simplement, aujourd'hui, la menace, ce qu'on appelle la menace, est endogène, elle n'est pas exogène.
Des Français qui se radicalisent.
Oui, ce sont des Français. Elle n'est pas exogène. Mais attendez, je suis pas aussi optimiste que d'autres sur ce point. Menace exogène, c'est-à-dire la menace venant de l'extérieur. Oui, c'est vrai que l'État islamique a perdu 96% de sa superficie, perdu 90% de ses ressources pétrolières, mais il a encore les capacités de se projeter. Donc on fait comme si tout ceci n'existait pas. Et moi, je reste persuadé qu'il y a une menace qui est bien et réelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai.
Venant de l'extérieur. Vous avez des informations là-dessus, Brice Hortefeux, qui vous permettent de dire cela.
Je dis qu'on ne peut pas exclure de manière définitive, comme je l'entends ici ou là, la menace exogène. C'est vrai que l'extérieur est affaibli, mais ils ont encore les capacités de se projeter, ne serait-ce que parce que d'ailleurs, ils ont des bases de repli vers un certain nombre de pays, d'Asie, la Malaisie, un certain nombre. Bon. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, la menace endogène, oui. Et simplement, je ne crois pas non plus, peut-être que je suis à contre-temps ou à contre-courant de ce qui est dit ici ou là, je ne crois pas au loup solitaire. Et il y a toujours, peut-être que ce sera un contre-exemple, mais il y a toujours, ou presque toujours, un environnement, ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement associatif.
Une mosquée salafiste, comme celle de Gonesse, qui est pointée du doigt dans l'affaire de Michael Harpon.
Un environnement sportif, salle de sport aussi. Donc il y a généralement quelque chose. Concernant les salafistes, bien sûr, là vous savez, les chiffres sont malheureusement implacables. Vous aviez quelques centaines de salafistes dans les années 2000. En 2004, on en estimait, les services d'enseignement ont estimé qu'il y en était à peu près 5000. Aujourd'hui, les estimations raisonnables indiquent qu'il y en aurait autour de 40 000. Sur le territoire national, avec 132 mosquées qui sont identifiées comme telles et une vingtaine en région parisienne à Paris.
Et pourquoi ne sont-elles pas fermées de manière quasi automatique, une fois que les services ont la certitude qu'elles prêchent la haine et le rejet de la République
Un certain nombre ont été fermés, depuis d'ailleurs plusieurs années, c'est pas récent.
Oui, avec une accélération à l'époque de Bernard Cazeneuve.
Avec sur une prise de conscience surtout. Alors, parce que le salafisme, c'est compliqué. Il y a été trois variantes. Oui. Donc, il y a une variante qui est pacifiste, une variante qui est, disons, théologique, quiétiste, etc. Oui. Et puis, il y a une variante qui est une variante active, menaçante, qui remet en cause notre société, notre mode de vie. Donc, il y a cette réalité, un nombre croissant de salafistes et des mosquées qui sont toujours actives. Et là, nous avons la démonstration de dysfonctionnement majeur et qui impose des leçons majeures.
Mais alors, ces dysfonctionnements, ils viennent de qui ? Des préfets, des forces de police, de la justice, où les situez-vous, vous, Brice Hortefeux ?
Surtout, je les situe surtout sur les leçons qui lui conviennent d'en tirer. D'abord, il y a des leçons de comportement individuel. Et jusqu'à présent, on distinguait signal fort, signal faible, comme ça. Aujourd'hui, tout petit signal doit être interprété comme un signal fort.
Alors, c'est ce que vient de dire Christophe Castaner.
Non, mais c'est ça la réalité.
C'est ce que vient d'annoncer Christophe Castaner, qui est en ce moment en train de rendre des comptes devant la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il dit, maintenant, il faut tout de suite signaler. Mais justement, j'ai une question pour l'ancien ministre de l'Intérieur. On a le sentiment, et c'est ce que laisse entendre Christophe Castaner, qu'il y a une culture dans les services de police en France, une culture de « on lave le linge sale en famille, on règle les choses en interne ». On ne fait pas le signalement. Est-ce que vous l'avez constaté, cela ? Est-ce que c'est à cela qu'il faut remédier ?
Parce que c'est effectivement très compliqué de signaler quand on est dans un service de l'occurrence de police. Et on ne s'attend pas, bien évidemment, à ce qu'un de vos collègues s'en prenne au service lui-même. D'ailleurs, à ma connaissance, cela ne s'est jamais produit de cette manière.
Ce qui s'est passé jeudi dernier est inédit. Oui.
Et s'il y avait d'ailleurs une appréhension ou une réflexion dans les services, c'était plutôt dans les milieux militaires. Ce ne concernait pas les milieux policiers. Mais donc là, la démonstration est faite. C'est pour ça que je vous dis, premier élément, il faut qu'il y ait une leçon concernant le comportement.
Bon. Dès qu'il y a un signal faible,
deuxième,
on signale.
Deuxième élément, il faut qu'il y ait des leçons qui soient tirées sur le suivi. Et le suivi, ça veut dire plusieurs choses. Et ça veut dire, bien sûr, le passage au crible au moment des habilitations, aujourd'hui c'est 7 ans, il faut que ça soit réduit, c'est lié à l'évolution de la société, mais ça veut dire aussi en matière de mutation, en matière de révocation, Ça veut dire aussi en matière de justice, souvent les tribunaux administratifs annulent, c'est ce que les syndicats de police d'ailleurs soulignent à juste titre, et les tribunaux administratifs parfois annulent ces mutations. Et puis il faut enfin qu'il y ait une leçon de comportement, de la connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle la menace est permanente. Ça veut dire que la vigilance doit être réelle. Moi, je suis convaincu que on dominera, on battra et on éliminera ces formes d'extrémisme violent, comme ça s'est produit dans le passé, où il y avait des périodes d'attentats pour d'autres motifs.
Et mais à condition que tout le monde s'y mette.
Et à condition que tout le monde s'y mette. Donc, il faut ces trois éléments.
Brice Hortefeux, une question concernant Christophe Castaner. Vous ne faites pas partie de ceux qui appellent à sa démission. Je ne vous ai pas souvent d'ailleurs entendu appeler à la démission de quiconque, d'aucun ministre. Non. Mais tout de même, une question sur la crédibilité de sa parole. Il y a eu ses propos hâtifs jeudi, le jour du drame. Mais avant cela, lorsqu'il avait qualifié ce qui s'était passé à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière d'attaque, avant ensuite de se rétracter, est-ce que la parole du ministre de l'Intérieur est aujourd'hui attaquée dans sa crédibilité?
Bon, vous avez fait à la fois la question et la réponse.
Non,
ça, c'est dans le bon
tout.
Sens, c'est dans le bon sens.
Pas du tout. Mais je vous demande ce que vous en pensez.
Mais
vous.
Effectivement,
je rappelle les faits.
Effectivement, je ne demande pas la démission du ministre et du ministre de l'Intérieur pour une raison très simple, c'est que ayant exercé ces responsabilités, je sais combien elles sont difficiles et que éviter les faux pas est extrêmement compliqué. Deuxième élément, est-ce qu'il y a eu une erreur? Oui, bien sûr, il y a eu une erreur dans la rapidité. De la réponse qu'il voulait apporter. Et ça, c'est aussi collectivement, on est collectivement responsable parce qu'il y a une pression de l'opinion, pression médiatique qui exige qu'on ait la réponse, la solution, qu'on ait la connaissance de tout. Il aurait dû, à mon sens, s'exprimer d'abord en termes de compassion à l'égard des familles, des victimes, et des victimes elles-mêmes, bien sûr, et ensuite, sans doute, s'en tenir à un état. Des lieux, de ce qu'il savait. Et là, il est sans doute allé un peu plus vite. Bon. Vous savez, ça s'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à moi-même dans un autre domaine qui était beaucoup moins grave avec un épisode neigeux. Oui. Donc, on a parfois cette pression, les services qui autour de vous veulent vous expliquer
vous
tout de suite ce qui s'était fait.
Il y avait des pagailles à l'époque, mais il y avait beaucoup de pagailles. Mais enfin, ce n'est pas comparable non plus
non,
avec
bien
ce qui
sûr,
s'est passé.
Non, bien sûr, les enjeux n'étaient pas les mêmes.
Je dis un dernier mot, Brice Hortefeux. Vous êtes au courant, on vote dans votre parti dimanche. Hein, on va élire un nouveau président des Républicains. Vous soutenez Christian Jacob.
Bon, mais vous êtes formidable. Vous êtes formidable individuellement et collectivement.
C'est Brice Hortefeux pour sauver votre famille, pour la ressusciter.
Mais vous êtes formidable individuellement et collectivement.
Merci à vous.
Comme la campagne se passe sans petites phrases, sans croque en jambes, sans coup de petit poignard ou de petites piqûres d'aiguille, rien du tout, évidemment. Du coup, vous expliquez que rien ne se passe. Non, c'est une campagne qui est très digne.
C'est Christian Jacob qui a refusé de débattre avec les deux autres.
Non, mais c'est une campagne qui est très digne. On a des personnalités différentes, des parcours qui sont différents. J'ai personnellement beaucoup d'amitié, voire d'affection avec Guillaume Larrivé qui a travaillé pendant plusieurs années à mes côtés. Mais je soutiens Christian Jacob parce que je considère qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouvent les Républicains, il faut à la fois concilier l'expérience, en même temps la connaissance et l'appréciation des militants. Et donc, Christian Jacob présente toutes ses qualités et donc je souhaite naturellement son succès.
Nous verrons dimanche s'il est élu dès le premier tour. Brice Hortefeux, député Les Républicains, député européen Les Républicains et ancien ministre de l'Intérieur, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Dans 5 minutes, un nouveau journal de Sébastien Krebs et puis nos invités nous rejoignent dans un instant. C'est la semaine du goût qui débute, on va en parler avec notamment le grand chef médiatique Babette de Rosière.
Et vous pouvez réagir bien sûr au 39-21 dès maintenant et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Demain dans le monde, c'est un de vos rendez-vous à cette heure-ci chaque soir. Et là, ce soir, c'est avec Didier François. Bonsoir à vous, Didier.
Bonsoir.
Votre retour en studio, on est ravis. Alors, c'est quand même assez complexe avec Donald Trump.
Oui.
D'ailleurs, il n'y a que lui qui sait faire comme ça. Il a d'abord annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Puis, il a semblé revenir sur cette décision cette nuit, sans que tout soit encore très clair. Le risque, en tout cas, Didier, c'est que demain, l'armée turque profite de cette confusion pour lancer quoi ? Eh bien, une offensive contre les Kurdes, qui sont dans la région, nos principaux alliés dans la lutte contre les terroristes.
En tout cas, oui, voilà, c'est la crainte. crainte des militaires américains eux-mêmes, qui tentent d'ailleurs de ramener le président Donald Trump au respect de ses engagements auprès de tous les partenaires de la coalition antiterroriste, parce qu'ils connaissent parfaitement la situation sur le terrain et sont bien conscients du danger d'un retrait trop rapide et trop total. L'État islamique a effectivement perdu le territoire sous son contrôle dans le nord de la Syrie, mais après 5 années de bataille terrible pour les lui arracher, et la menace terroriste est loin d'être totalement écartée.
Bah oui, parce que Daesh a des structures clandestines, a priori, hein, en tout cas actives dans cette zone.
Oui, ça c'est le premier risque. Et puis il y a 12 000 djihadistes prisonniers dans les camps surveillés par les Kurdes, dont 10 000 sont des combattants locaux, syriens et irakiens, mais 2 000 sont des volontaires étrangers qui viennent du monde entier, dont d'Europe. Donc vous imaginez ce qui va se passer en cas d'offensive turque. Soit ils vont s'échapper parce que les miliciens kurdes, eh bien, qui les gardent, ont déjà commencé à se redéployer face à la Turquie sur la frontière, dans le nord. Soit les Turcs vont les récupérer et les recycler dans les milices de l'opposition syrienne qui sont sous leur contrôle. Ils l'ont déjà fait à Idlib. Donc dans tous les cas, on risque de se retrouver avec des islamistes aguerris dans la nature et à nouveau libres d'agir, ce qui n'est pas une perspective très réjouissante.
Et pour cause, alors c'est ce qui explique ce début de volte-face.
Oui, parce que là, les élus républicains qui étaient quand même abasourdis par ce lâchage sont montés au créneau, en appui d'ailleurs des militaires américains, pour faire revenir le président sur sa position. Et comme il y a une procédure d'impeachment qui a été lancée contre lui par l'opposition démocrate, eh bien Donald Trump ne peut pas se priver du soutien de sa majorité. Et il a donc commencé à reculer.
Effectivement, il est aussi en difficulté à l'intérieur. Merci beaucoup Didier François. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
La semaine du goût, on en parle juste après le rappel des titres avec nos invités dans ce studio.
Et vous pouvez réagir au 39-21, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. Europe 1. 19h30 sur Europe, hein, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Christophe Castaner, sous le feu des questions après l'attentat de la préfecture de police de Paris, auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur reconnaît un dysfonctionnement sans précédent. Selon les informations d'Europe 1, 160 agents, notamment de la brigade criminelle, travaillent en ce moment à analyser la clé USB qui a été retrouvée dans le bureau de l'assaillant. Ce matin, à l'occasion de l'hommage national aux 4 victimes, Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation de tous contre le terrorisme. Il demande une société de la vigilance. Dans l'actualité également, ce soir, 6 policiers en garde à vue placés par l'IGPN, la police des polices, après l'interpellation violente d'un jeune homme en août. Les images avaient circulé sur les réseaux sociaux. On voyait le jeune suspect frappé au visage. Les agriculteurs ont mis leurs tracteurs sur les routes. Aujourd'hui, 100 de blocages un peu partout en France contre les traités de libre-échange et les zones sans pesticides. Enfin, la victoire 3-0 ce soir de l'équipe de France féminine de football au Kazakhstan. Premier match de qualification pour l'Euro 2021.
Merci Sébastien. Demain 18h ici même.
À demain.
On compte sur vous. Anissa.
Oui, la tendance météo pour demain, c'est assez simple. Les températures sont en baisse. Nous aurons 11 degrés demain matin à Paris, 16 seulement l'après-midi. Il fera un petit peu plus chaud dans le sud avec 24 degrés à Ajaccio, Bastia et Montpellier. Et alors, la physionomie de la France, elle est assez simple. Des nuages et de la pluie sur les trois quarts nord du pays. Il fera beau seulement demain le long de la Méditerranée, sur le Pays Basque et en Corse. Et attention, dans le sud, le vent se lève avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h.
Europe 1.
Votre grand journal se poursuit, Nathalie Lévy, et on passe à table avec vos invités.
Ah oui, la semaine du goût, là, c'est en ce moment. Est-ce que bien manger, ça s'apprend? On vous pose la question, enfin, on pose la question à nos invités d'abord, et puis vous, vous allez évidemment nous appeler, on l'espère, nombreux, au 39-21. J'accueille dans ce studio la chef médiatique, évidemment, Babette de Rosière. Bonsoir, Babette de Rosière, avec votre restaurant La Case de Babette à Maule, oui, c'est dans les Yvelines. Vous êtes aussi conseillère régionale d'Île-de-France. Et Laurent Mariotte est également avec nous ce soir, ça me fait très plaisir. Hello Laurent. Laurent s'appelle Monsieur Gastro, évidemment, c'est le Monsieur Gastronomie d'Europe 1, et ça s'appelle Mieux manger toute l'année, ça pèse son poids.
Hein. Oui, une recette par jour, donc il y a du monde.
Exactement, aux éditions Solar, nouvelle édition 2020, 365 recettes et les conseils qui vont avec, les astuces, etc. Et votre émission, c'est dans la table des bons vivants de 11h à 12h30 le samedi. Alors voilà, maintenant qu'on est là ensemble, on va pouvoir se dire les choses très clairement. La 30e semaine du goût du 7
30e année.
30e année, c'est ça, semaine du goût, du 7 au 13 octobre. Est-ce que véritablement, c'est un super pari, c'est une super initiative, ça se transmet, on dit les choses, on aime ce rendez-vous, Babette de Rosière?
Ah oui, j'adore, parce qu'au moins une fois par an, on sait que les enfants vont être très attentifs à ce qu'ils mangent grâce aux chefs qui sont là pour transmettre. Parce que la semaine du goût, c'est vraiment éduquer. C'est un moment où on fait une vraie éducation aux enfants, on leur fait découvrir des saveurs nouvelles, et c'est vraiment une très très belle chose.
Alors qu'est-ce qu'on leur transmet justement, Laurent Mariotte, durant cette semaine du goût?
Ben, plein de belles choses, elle le dit, Babette, effectivement. Les saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide, la saisonnalité, c'est très important. Une époque où on veut de tout, tout le temps, les enfants ne savent plus reconnaître les saisons, ils ne savent plus distinguer un concombre d'une courgette. Les questions que les enfants se posent, c'est comment poussent les pâtes, d'où vient le chocolat, il vient de la tablette. Voilà. Enfin voilà, donc c'est l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais je vais vous dire la vérité, moi je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'une seule semaine par an. Ça ne suffit plus aujourd'hui. La semaine du goût, c'est très bien, mais ça fait 30 ans. Aujourd'hui, il faut vraiment repenser notre alimentation dans nos cantines scolaires où on mange encore assez mal,
mais ça,
faut le dire.
Ça a évolué quand même, parce qu'au départ, il y a 30 ans, c'était la journée du sucre avec Petit Renaud, et ça s'est transformé au fil des temps à la semaine du goût. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je trouve que la semaine du goût, on aurait dû la faire au moins une fois par mois.
Oui, mais c'est tous les jours même. Ben voilà,
c'est une fois par mois.
Alors regardez, Théophile Cossa est allé pour Europe 1 voir un petit peu ce que les jeunes, les ados, en pensaient. Qu'est-ce que c'est pour eux que bien manger?
Au déjeuner, j'ai mangé une pizza. Ça fait plaisir de manger de temps en temps au fast-food, un peu de gras.
Au déjeuner, je bois juste du lait.
Ça vous arrive de sauter des repas?
Oui, surtout le déjeuner.
Et ça veut dire quoi pour vous, faire attention à votre alimentation?
Faire attention à ce qu'on mange. Enfin, manger équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé.
C'est important de manger des légumes, des fruits.
Au déjeuner, vous avez mangé quoi, par exemple?
Une omelette.
Voilà. Voilà ce que disent les jeunes, en tout cas les ados, les jeunes adultes.
Oui, mais c'est
voilà
normal.
C'est
une question de génération. On ne va pas les empêcher de manger des McDo, des kebabs et ce genre de choses. Encore une fois, c'est qu'une question d'équilibre, tout ça. De temps en temps, pourquoi pas? Si c'est simplement le régime alimentaire, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter et de remarquer que notre courbe d'obésité et le surpoids chez les enfants rattrape celle des États-Unis. Donc effectivement, il faut leur donner du plaisir à la cantine. Il faut vraiment remettre les cuisiniers dans les cantines scolaires et pas leur apporter des barquettes où ils réchauffent.
Vous êtes allé voir ces jeunes,
voilà.
Justement, vous allez me raconter, Babette, dans un petit instant, parce que vous êtes allé leur proposer des choses.
Absolument.
Et dialoguer avec eux dans un instant.
Vous pouvez vous aussi réagir et venir parler de cette semaine du goût avec Laurent Mariotte et Babette de Rosière. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et ses invités Laurent Mariotte et Babette de Rosière. On passe à table et on s'intéresse à la semaine du goût qui a lieu en ce moment dans toutes les écoles. Vous pouvez bien sûr réagir au 39-21, on vous écoute.
Et elle souffle ses 30 bougies la semaine du goût. On a Monsieur Gastronomie d'Europe 1 d'un côté, la chef médiatique Babette de Rosière de l'autre. On est gâtés ce soir. Je voudrais comprendre, Babette de Rosière, vous êtes allée, vous, dans un lycée, un collège, là en région parisienne.
Je suis allée à Saint-Ouen, faire une semaine du goût, et j'avais demandé au professeur de m'acheter tous les produits exotiques et des produits qu'on trouve ici. Et j'ai commencé par expliquer ce que c'était les produits. Il y a des enfants qui connaissent tout juste la carotte et les tomates, etc., parce que c'est du classique. Mais à partir du moment qu'on quitte ça, on montre d'autres produits, les enfants sont perdus. Et j'ai fait un cours sur le poisson, parce que le poisson aussi, ça, on trouve ça très rarement dans les cantines. Et les enfants, je leur apportais un beau filet d'espadon, et je leur expliquais ce que c'était l'espadon, où on trouvait l'espadon. Et parmi ces enfants, il y a eu un enfant qui savait que c'était un poisson à épée, etc. J'ai cuisiné avec les enfants d'espadon, avec des épices, avec du safran, etc. Et figurez-vous que les enfants étaient à la cantine, ils ont pris leur plat pour manger, ils ont mis leur plat de côté, ils sont tous venus devant moi, ils voulaient que je fasse de l'espadon. Heureusement, j'en avais beaucoup. J'ai fait goûter aussi, j'en avais beaucoup, parce que j'avais prévu. J'ai fait goûter aussi tous les fruits exotiques classiques qu'on trouve, par exemple la mangue, etc. Les enfants confondent entre la papaye et la mangue, ils ne connaissent pas. Donc je pense que l'éducation, c'est aussi ça. On peut aussi apprendre tout ce qui est dans l'hexagone, etc. Mais les Outre-mer aussi, c'est la France. Donc il faut apprendre aux gens, aux enfants, de découvrir d'autres saveurs.
Bien sûr, Babette, et c'est important, vous avez raison. Ah, il faut les éduquer dès le plus jeune âge. Laurent Mariotte, ça a un coût. On ne peut pas donner de la papaye ou de la mangue à toutes les saisons et à tous les enfants, et encore moins dans les cantines.
Oui, puis ça a une empreinte écologique. C'est à l'époque, aujourd'hui, on veut cuisiner éco-responsable. C'est vrai que la saisonnalité est vraiment déjà de travailler avec des producteurs locaux. La loi alimentation voulue par le gouvernement, elle prévoit d'inciter les cantines scolaires à mettre plus de produits bio et de produits locaux en circuit court dans les cantines. C'est juste une incitation, c'est pas encore une obligation. Alors il y a de beaux exemples comme Montsartou, on en parle tout le temps dans le sud, ou comme Grande-Synthe dans le nord, où là on est dans des cuisines 100% bio. Donc encore une fois, ce n'est qu'une question de volonté politique. Pour reprendre la phrase d'Olivier Rollinger, qui a fait un très beau livre qui s'appelle « Une révolution délicieuse », il dit « Dans nos municipalités, on pourrait peut-être construire un petit peu moins de ronds-points et mettre un peu plus d'argent dans les cantines scolaires pour que les enfants mangent mieux. »
Ah oui, le problème c'est que voilà, pour que les enfants mangent mieux, il faut des moyens, il faut des produits
pas
bio.
Tant
que,
oui, il faut oui, rajouter oui, un petit peu, mais ce n'est pas énorme ce qu'il faut rajouter, Nathalie.
Des produits très simples pour faire manger les enfants. On n'est pas obligé de... Ça ne coûte pas ça, un petit filet de poulet, un petit filet de poisson, ça ne coûte rien du tout pour faire bien manger les enfants.
On a Sarah qui nous appelle de Cannes. Bonsoir Sarah.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous dites, vous on mange bien dès le plus jeune âge. C'est comme ça que ça se passe chez vous?
Alors oui, je pense que voilà, ma profession est diététicienne et en effet, je trouve qu'on apprend vraiment aux enfants dès le plus jeune âge. Moi qui ai l'occasion de travailler justement dans les crèches, ça passe justement par là. Et on le voit également, ça passe dès le plus jeune âge et avec les parents également, à qui on apprend aussi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai été confrontée récemment à des enfants dont, en fait, une fratrie, où tout simplement on avait un enfant de 8 ans et l'autre de 10 ans. Et il était par exemple évident pour les enfants que l'enfant de 10 ans mangeait les mêmes portions que l'enfant de 8. Ne serait-ce que ça, déjà, quand on prend boucle d'or, déjà, on sait qu'on a, au niveau des doses, par exemple, une
alimentation
différente. Ça. Mais oui,
ah oui, non, mais ça semble être le BABA, mais effectivement, vous avez raison. Ouais.
Le BABA est pareil, l'éducation du goût, combien de gens au cabinet j'entends, et ça c'est extraordinaire, mon enfant n'aime pas les légumes. Ouais. Eh bien moi je vais vous annoncer quelque chose, je ne connais à ce jour, ça fait 15 ans presque que je fais ce métier, je ne connais aucun enfant qui n'aime pas les légumes.
Mais oui, ça dépend, sûr,
oui, ça dépend comment on les cuisine et comment on leur propose. Merci beaucoup Sarah de votre appel depuis Cannes. Quand même, non mais il y a des choses, par exemple la tomate, vous allez me dire tous les deux, la tomate,
quoi,
trois quarts des Français estiment aujourd'hui qu'elles n'ont pas bon goût.
Mais oui, pourquoi? Parce qu'elles
sont hors sol. Et puis on l'utilise aussi hors saison.
Et qu'on l'utilise
dans des serres chauffées, donc c'est pas écolo, ça n'a pas de sens. Non, il faut manger les choses en saison.
Il faut manger les choses en saison.
Oui. En plus
il faut cuisiner, il faut emmener les enfants au marché. Voilà, il faut sentir, il faut toucher, il faut tâter, il faut se reconnecter avec ses cinq sens.
Ok, mais comment on fait, pardonnez-moi, j'insiste, pour bien manger sans que ça revienne forcément plus cher?
Bah écoutez, il faut aller au marché déjà avec les enfants, il faut cuisiner soi-même à la maison. Et puis des choses simples, et puis tous les jours on peut faire un plat différent pour éduquer les enfants à manger. Chaque jour, quelque chose de différent. C'est ridicule quand on dit qu'un enfant n'aime pas les épinards. C'est pas vrai. Ça dépend comment on cuisine les épinards, comment on le présente et comment on éduque l'enfant pour pouvoir aimer ce produit-là. Et quand un enfant n'aime pas un produit aujourd'hui, on peut s'arranger petit à petit pour éduquer l'enfant, pour que l'enfant puisse aimer ce produit et sans le forcer.
Il ne faut pas avoir peur de faire de grandes quantités qu'on va pouvoir customiser tout au long de la semaine avec les restes. L'anti-gaspi, bien sûr, un pot-au-feu deviendra une tomate farcie, un beau lapin des Flandres bien cuisiné. Voilà, vous pourrez en faire des beignets.
Il nous faut des Laurent Mariotte dans la cuisine.
C'est simple, c'est ça, super. Je vous promets que c'est simple.
Et il faut des semaines du goût, absolument. Beaucoup plus qu'une fois par an.
Oui, il faut des journées du goût. Oui.
Des journées du goût. Merci à tous les deux. Babette de Rosière avec votre tournée aussi qui a commencé.
Voilà,
le Babette Tour.
Voilà, chez Cultura. Et puis le livre de Roche Pacheur qui est sorti d'ailleurs, où on fait la cuisine exotique.
Exactement.
Vraiment, en toute tranquillité, on ne peut pas grossir sans gras, sans beurre, sans rien.
Exactement.
Et ils sont très contents d'avoir ce livre-là. Et toujours se relever.
Toujours se relever.
C'est
édition
ma bio. Voilà, c'est ça.
Exactement. Et mieux manger toute l'année, c'est votre livre, Laurent Mariotte, 2020, Solar Edition, qui sort jeudi. Et on vous retrouve évidemment samedi de 11h à 12h30, sans faute. Merci à tous les deux.
Samedi sur BFM Paris.
Ah ben voilà, tout est complet là. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Avec les sorties cinéma, Mathieu Charrier dans un instant qui nous rejoint, évidemment.
Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Nathalie Lévy, votre grand journal du soir. C'est aussi la culture au sens large. Dans un instant, on va parler cinéma. Mais avant cela, on découvre ce qu'il y a dans la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie?
Harry Connick Jr., figurez-vous. Il rend hommage au compositeur Cole Porter en reprenant Mind If I Make Love to You.
And from then on, you will never mind if I make love. Make love.
Quatre ans après son dernier album, Marie Connick Junior, oui, célèbre ce compositeur Cole Porter. Ça s'appelle l'album True Love, Celebration of Cole Porter. Vous avez vu, accent incroyable. Date de sortie prévue pour le 18 octobre.
Prochain titre dans la playlist du 18-20, il sera à découvrir demain, bien sûr, à la même heure. La culture au sens large sur Europe 1, Nathalie Lévy, c'est tous les mardis soirs. On parle cinéma avec Mathieu Charrier.
Eh oui, hello Mathieu, on commence, bonsoir. On commence avec la sortie la plus attendue de la semaine, Joker, signé Todd Phillips.
Avec Joaquin Phoenix qui interprète ce Joker. Alors je précise tout de suite, on n'est pas dans un film de super-héros. Hein. On ne voit pas Batman en costume, par exemple, même si, évidemment, il y a une petite référence à l'homme chauve-souris. Mais sinon, le film se concentre surtout sur la folie d'un homme. Ce Joker, clown à ses heures perdues, moqué, vilipendé, écrasé, abandonné par notre société et qui va sombrer dans la folie meurtrière, entraînant avec lui tout un tas de gens d'oublier, va devenir le symbole d'une sorte d'insurrection, d'une lutte des classes. Alors Joaquin Phoenix, qui interprète ce Joker, il a perdu 25 kilos pour le rôle, il n'a plus que la peau sur les os. Il incarne cet homme décharné, mal dans son corps, violent. Le film est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans en France. L'acteur qui a dû batailler pour comprendre son personnage.
Tu sais jamais s'il est vraiment fou ou si c'est lui qui a raison. Je me suis beaucoup interrogé. De toute façon, tout ça s'impose à lui. Que ce soit objectivement vrai ou non. Mais finalement, c'est vous, en tant que spectateur, qui devez trancher.
Voilà, alors Joker est un film qui nous montre finalement comment notre société peut broyer un homme et engendrer un monstre. Message d'ailleurs qui inquiète les autorités américaines. Aux USA, le film est interdit aux moins de 17 ans et l'armée a alerté sur des potentielles menaces lors des projections.
Pour un public plus familial,
oui,
maintenant,
ça, c'est
voilà. Donnez-moi des ailes, nouvelle réalisation de Nicolas Vanier. On va l'avoir en ligne.
Ouais, avec des oies sauvages. Nicolas Vanier s'est inspiré de l'histoire de Christian Moulet, c'est un pilote du LM qui s'est aperçu, c'est aussi un scientifique, qui s'est aperçu qu'une espèce d'oie, les oies naines, risquait de disparaître parce que le couloir aérien qu'elles empruntent lors de leur migration est plus approprié, vous savez, à cause de la pollution lumineuse, des zones de chasse, des zones de vol, etc. Il a donc décidé, ce scientifique, d'élever des oies en les habituant au bruit de son moteur avant de faire la migration avec elles, en les faisant passer par un nouveau chemin. Alors dans le film, pour qu'il y ait un peu plus de romanesque, c'est un enfant qui va réaliser cette prouesse, fils d'un scientifique incarné par Jean-Paul Rouve. Et franchement, on vole nous aussi avec ces oies, même si on ne peut pas les caresser, mais on aimerait vraiment pouvoir se pencher de l'ULM et les caresser. C'est un film qu'il faut, je le dis, voir sur grand écran. On est à bord de l'ULM, les images sont magnifiques. Ça s'appelle donc « Donne-moi des ailes », c'est signé Nicolas Vanier.
Et Nicolas Vanier, aventurier, écrivain et cinéaste, vous êtes en ligne avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous répondre ce soir sur Europe 1. C'est votre 7e long métrage, Nicolas Vanier. Comment on se lance dans une telle aventure? On porte à l'écran ce parcours incroyable qui est une histoire vraie, Mathieu nous le disait.
Oui, ça a été plus qu'un film, une aventure, parce que nous avons revécu à l'identique pratiquement cette aventure incroyable que Christian a lui-même réalisée il y a 20 ans. Et donc, on a été chercher des œufs d'oies naines dans des parcs ornithologiques où ils s'en trouvent encore. Et puis, les oies sont nées. Il a fallu que Jean-Paul Rouve et l'adolescent dont Louis Vasquez soient là le jour où elles sont nées pour qu'elles prennent pour parents, justement, Jean-Paul et Louis. Et puis ensuite, ces oies ont grandi. On a volé avec elles. Ça a été un tournage assez incroyable parce qu'on avait bien évidemment un tournage de fiction. Hein. C'est une fiction, c'est pas du tout un documentaire, mais à côté de ça, on a revécu à l'identique cette aventure absolument incroyable. On s'est retrouvé à voler avec les oies, pouvoir les caresser en vol, et j'ai embarqué dans ce petit engin incroyable qui est un ULM, des caméras assez sophistiquées, avec pas mal de prouesses techniques pour pouvoir essayer de faire vivre, j'espère y être arrivé, aux spectateurs cette sensation absolument incroyable que j'ai moi-même éprouvée en volant là-haut avec ces oies.
Alors surtout, Mathieu Charrier vous interroge.
Nicolas Vanier, surtout, vous êtes allé tourner dans des pays très très au nord où il faisait très très froid. Jean-Paul Rouve raconte que ça a été compliqué.
Tout a été compliqué. Ce film avait une chance sur deux ou trois de voir le jour. Franchement, il était aussi fragile que ces œufs avec lesquels on a commencé. Et effectivement, lorsqu'on se retrouvait, par exemple, dans ces incroyables fjords de Laponie et qu'on essayait de tourner, parfois, on ne savait pas pourquoi. Les oies ont leur humeur, mais souvent, on savait. C'était le vent, c'était la pression atmosphérique, des conditions qui sont très, très compliquées. Donc, ça a été un film aussi compliqué que passionnant. Et je vous assure que ce n'est pas peu dire.
Merci beaucoup, Nicolas Vanier, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1. Ce film avec Jean-Paul Rouve, entre autres, donc dans les salles demain. Il faut le savoir, il y a une vraie menace. Un tiers des oiseaux ont déjà disparu du ciel européen, toutes espèces confondues. c'est un film engagé, une fois encore, comme sait si bien le faire Nicolas Vanier.
Donne-moi des ailes, faut rappeler le titre, et vraiment, faut aller le voir.
Voilà. Mathieu, on termine vite fait avec La fameuse invasion des ours en Sicile.
Un superbe film d'animation adapté d'un célèbre roman pour enfants écrit par Dino Buzzati, publié en 1945. Alors tout se passe bien dans le monde des ours qui coulent des joues paisibles dans leur montagne lorsqu'un jour, le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs. Évidemment, le roi est très triste, d'autant que la famine menace en raison d'un hiver très rude. Il va donc envahir le monde des hommes et partir à la recherche de ce fils disparu. Alors, c'est une histoire assez classique dans un conte pour enfants. En revanche, le dessin, c'est tout simplement magnifique. Allez, s'il vous plaît, chers auditeurs, voir au moins l'affiche. Ça vous donnera une idée de ce dessin coloré, made in France. En plus, on peut en être fier. Et avec tout un tas de thèmes qui sont brassés, thèmes sous-jacents que nous détaille Lorenzo Mattotti, le réalisateur.
Il y a la relation père et fils. Le père qui voit son fils changer, perdre presque la culture des ours et devenir autre chose. Il y a la relation avec la nature et l'homme. Il y a la relation entre les animaux et les hommes. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à l'intérieur qui ne sont pas résolus. Et c'est ce que je trouve intéressant, qu'il parle de la complexité de la vie.
Voilà, c'est vrai que ce n'est pas un film d'animation manichéen. Il pose des questions, il n'apporte pas forcément de réponses, c'est ce qui fait toute sa poésie. Alors je dirais à partir de 7-8 ans, cette fameuse invasion des ours en Sicile ravira vos enfants, et franchement, vous aussi par la même occasion, donc pourquoi louper ça ?
Allez, encore un mot Mathieu, un documentaire, cette fois tout est possible.
Oui, qui raconte l'histoire de John Chester, réalisateur pour le cinéma et la télévision. Un jour, lui et sa femme Molly se font expulser de leur appartement, et il décide alors de reprendre une ferme, ils n'y connaissent rien, mais il la transforme en biodynamie notamment, de façon biologique. Il va filmer leur aventure pendant près de 8 ans. Entre joie, doute, galère, victoire, c'est ce qu'on découvre dans le documentaire. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au départ, cette terre, elle n'est plus du tout fertile, elle est toute sèche. Ils vont lui redonner vie, littéralement, ça, elle va se régénérer en quelque sorte. C'est un documentaire passionnant, ça s'appelle « Tout est possible ».
Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix avec les films que vous propose Mathieu Charrier. Merci beaucoup Mathieu.
Émilie Mazoyer qui arrive.
Émilie Mazoyer, où êtes-vous ?
Oui,
bonsoir à vous.
Je suis là, cette
fois, je suis à l'heure. Bonsoir à vous. Dites-nous tout.
Alors ce soir, on va se faire un mélange entre une boum et un karaoké.
Ah, trop bien.
Des années 90, Anissa.
Oh là là, c'est ma vie.
La voix, Nathalie aussi.
Allons-y.
Avec les tubes des années 90, il y a une grande tournée qui s'appelle Born in 90. Et ce soir, je reçois Princesse Erika, Séverine Ferrer et l'âme. Elles seront toutes ensemble sur scène, la grande tournée. Là, ça va être fou, cette histoire. La tournée commence le 31 octobre et donc on en parle ce soir. Il y aura Benny B aussi avec
Benny B. Oh là là, grosse ambiance assurée. On prend un petit coup de vieux au passage.
Oui,
mais
oui.
On est ravis d'être avec vous, Émilie Mazoyer, en direct dans un tout petit instant.
Merci beaucoup, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1 et on vous retrouve demain à 18h pour l'info.
Très belle soirée à tous d'ici là, merci.